J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Très heureux de vous retrouver pour notre nouveau rendez-vous cinéma sur Radio Grand Air. Et oui, avec un petit peu de retard cette semaine, hein, mais que voulez-vous, ce sont les prémices de l'automne, mon cher Pascal. Merci en tout cas de m'accueillir et d'avoir attrapé le coup. Effectivement, quand on est covidé, c'est un petit peu compliqué.
Exactement.
Pour faire de la radio.
Ça va mieux.
Ça va très bien.
Ouais, la pêche.
Ah, la pêche, la patate.
Oui, ça c'est bien. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 87 d'Entracte.
Allez, c'est parti.
Ouais, qui va être chargé.
Oui, absolument, avec une belle programmation à nouveau. Ça sent déjà les fêtes de fin d'année. Et on va se mettre un petit peu aux couleurs de Noël. On n'est pas très très loin, on a encore quelques jours. Mais c'est l'occasion de profiter effectivement de ces belles séances que nous allons pouvoir découvrir au cinéma de la Brèche à Sainte-Foy-la-Grande avec cette semaine 6 rendez-vous que tu as choisi.
Alors j'ai choisi 6 films évidemment. Alors de plus en plus il va y avoir des films pour les enfants hein. En ce moment. Mais ça oui. Passe en plein hein. on passe au Wish, on va parler de Migration, ouais. On va passer Wonka en avant-première donc juste avant sa sortie nationale. Voilà, il y aura plein de films, je pense encore à Shaun le Mouton, Capellito, tout ça, enfin voilà, c'est tout, c'est il y a plein.
Ça va être sympa, ouais.
Voilà. Alors ce qui est marrant cette année, c'est quand même que ce soit pour Migration ou alors le Wish, le dernier Walt Disney, et ils ont sorti super tôt les films.
Ah oui, d'habitude c'est toujours un petit peu.
Oui, voilà. J'étais un peu surpris quand même de la date. Pourquoi les sortent-ils vraiment début décembre? Avant, ils sortaient vraiment vers le 10, le 15 décembre.
Ouais.
Par là, tu vois. Juste avant les vacances, on va dire, pour que ça batte son plein. Et là, ils sont sortis très très tôt. Alors, je sais pas, j'espère. Peut-être qu'ils escomptent une carrière super longue. Écoute, moi je leur souhaite
ouais.
Voilà, que ça fonctionne dans ce sens-là.
Absolument, ouais. Mmh.
Donc on va parler de Migration, la dernière création de Benjamin Renner et Gaylo Homsi. On va parler de Wonka aussi, de Paul King, qu'on aura en avant-première, hein, donc juste avant évidemment la sortie nationale. On va parler de la dernière comédie de Clément Michel, Noël Joyeux. Voilà, qui nous met un petit peu dans les fêtes.
Oui. Hein. J'ai vu le teaser, hein, c'est pas mal.
Voilà, on va parler aussi du dernier film de Katell Kiyeverré. Le temps d'aimer. Alors là, j'ai mis en parallèle aussi une page d'histoire, là, parce qu'on on va mettre un pied dans les heures sombres, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale.
Mmh.
Donc j'ai préparé en parallèle vraiment, parce que quand j'ai lu le scénar, je regardais un petit peu comment elle avait construit son film et tout, je me suis dit, waouh, ça me rappelle une grosse page d'histoire. Alors, évidemment, Katell Kiyeverré, ça lui rappelle des histoires de famille. Moi, j'ai mis en parallèle une autre page qui ressemble peu ou prou à son scénario pour bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est compliqué.
Mm-hmm.
On va parler aussi du dernier film de Jérémy Perrin, donc Mars Express, un film d'animation. Et on va parler aussi du dernier clin d'œil, un film un documentaire hein, de Roland Nurier. On va parler de Yalla Gaza. Alors, je tiens à dire une chose, hein, parce que je sais qu'en ce moment, le sujet est brûlant hein, là-dessus. Hein. Sur la bande de Gaza, ce documentaire a été fait avant l'incursion palestinienne en territoire israélien et bien avant aussi évidemment l'opération israélienne en territoire palestinien.
Donc, ça a été fait avant.
C'était fait avant. Oui, c'est important de le dire. Hein. Oui. Et dans le cadre de la sortie donc, du film Wonka, j'ai choisi comme personnage de la semaine le tombeur de ces dames, la coqueluche de ces demoiselles, j'ai nommé Timothée Chalamet. je sais pas si on dit Chalamet.
Enfin, voilà. Moi je dirais Chalamet.
C'est américain si tu veux, mais il a un nom bien français.
Bah, écoutez, si vous avez la réponse, chers auditeurs de la radio, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à Pascal. Alors on va commencer.
On va commencer par Napoléon. Alors tu me parlais de Napoléon. Oui, mais je t'avais dit, on allait en discuter.
Absolument.
On allait en discuter.
On a bien sûr parlé pas mal de ce rendez-vous. Oui. On l'attendait avec impatience. Oui. Il est arrivé sur les écrans. Oui. Il tourne toujours d'ailleurs à la brèche. Hein.
Ah, toujours, bien sûr. Oui.
Alors si vous ne l'avez pas vu, hein, ça n'empêche que vous pouvez venir le voir. On vous conseille de venir le voir. Vous faire une opinion, justement, sur ce nouveau film de Ridley Scott. Alors on va préciser que c'est un Anglais qui a réalisé ce film.
C'est un Anglais, non, un Américain.
Un Américain, pardon, mais...
Attends, non, je ne sais même plus, oui, je suis largué. Ridley Scott, je crois qu'il est anglais.
Et oui, voilà.
Il est basé en Angleterre, oui, pardon.
Donc, voilà, avec un œil anglais, faire un film sur un Français, c'est aussi un pari. Voilà.
Surtout surtout par en anglais, l'Angleterre était la pire ennemie de Napoléon et vice versa. Je trouvais ça marrant aussi.
Absolument.
Alors, en plus, c'est à la France, moi, je ne veux pas dire brandir le cocorico et le drapeau français, mais c'est quand même. Je regrette que ce ne soit pas des Français qui se sont emparés du scénario.
Exactement. Alors, ça, c'est une première chose, effectivement, que l'on peut donner en débriefing, hein, parce que tu l'as vu, moi je l'ai vu le film.
Oui.
Et les réactions sont relativement variées.
Elles sont super mitigées.
Mitigées, voilà. Mais on retrouve un pinoyau pour des déçus. On trouve un noyau de gens qui sont mitigés et puis un noyau de gens qui sont convaincus. Alors, évidemment, c'est 2h38 de film, quasiment 3.
Carrément.
Bon, on s'attend des choses qu'on va pas forcément voir dans le film.
Oui.
Voilà. Alors moi j'ai trouvé un Napoléon assez dépressif. Voilà, c'est vrai que je m'attendais à voir quelqu'un de plus enjoué, quoi. Alors on savait qu'il avait ce côté très...
De quoi, très fragile,
très angoisseux.
Il y a les deux.
Très anxieux.
Il y a les deux, si tu veux, là-dessus. Alors, ouais. Les gens étaient déçus, pourquoi? Parce que déjà, ils ont pas... Alors, j'avais averti déjà, j'avais parlé des interviews de Ridley Scott.
Oui.
Et j'avais parlé justement des aspirations de Ridley Scott, c'est-à-dire comment il avait conçu son film et autour de quel personnage. Quand on pense à Napoléon, nous, en tant que Français, nous, c'est Napoléon le réformateur, Napoléon, on va dire, le stratège, le vainqueur des champs de bataille. Voilà, nous, on s'intéresse à ça. Mais erreur majeure. Il l'avait dit plusieurs fois. C'est pour ça qu'il en a calmé plus d'un, on voit des espèces d'historiens qui lui sont tombés dessus en disant mais qu'avez-vous fait? Il a dit attention. Je fais un film, mais autour du cercle, de son cercle, on va dire intime, c'est-à-dire ses rapports avec Joséphine de Beauharnais.
Ouais.
Et là-dessus, il n'a pas menti. Le film, il tourne vraiment autour de ça.
Ah, bah, c'est sûr. Hein, voilà. Ça vient
d'ailleurs, qui est incarné par une Vanessa Kirby, on va dire, qui crève l'écran. Mmh. Vanessa Kirby, il n'y a rien à dire. Hein, c'est une grande actrice. Et là elle n'est pas très bonne en histoire, évidemment, comme on l'a remarqué, mais c'est pas grave. C'était une excellente actrice. Ouais. Elle n'aurait pas dû jouer le rôle au début. C'est vraiment une seconde main, hein. Il avait choisi une autre personne, Ridley Scott, ça n'a pas fonctionné, donc il a pris Vanessa Kirby, et c'est super, elle incarne hyper bien le personnage. Ensuite, oui, les gens s'attendent, on va dire, à voir du Waterloo, des choses comme ça, ça passe très vite, les scènes de bataille, il y en a même des fois, franchement, je me demande si c'était nécessaire, on va dire, de faire cette espèce de plan super rapide sur la bataille des pyramides.
Ouais. Oui, c'est vrai.
On le voit tirer au canon sur les pyramides, ce qui n'est jamais arrivé. D'abord, Napoléon ne s'est pas battu en bas des pyramides. Hein. Il s'est battu sur le plateau de Gizeh, mais il est à peu près 8 km des pyramides. Hein. Mmh. Donc on est très loin. Hein. Et voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi la scène ne dure que même pas 10 secondes, on va dire.
C'est très court.
Pourquoi? Parce qu'on est en train d'assister à un montage, en fait. C'est-à-dire qu'il a tourné 4 heures de rush, 4 heures de film, et il a découpé. Évidemment, tu peux pas vendre un film qui fait 4 heures. Bon, tu peux, mais enfin bon, c'est les programmateurs n'aiment pas ça dans les salles. Je te le dis, dans les cinémas, ils n'aiment pas mobiliser 4 heures pour un film. Donc voilà, il aurait pu couper son film en deux, mais il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il était en cheville déjà avec Apple TV. Donc je pense qu'il va vendre, si tu veux, la version longue, il va la vendre.
Et oui, parce qu'on a une version qui dure 4h30, je crois. Hein.
Ouais. Oui, 4h30, mais je crois qu'il peut faire même plus. Voilà, voilà pourquoi Waterloo dure très très peu de temps. Voilà pourquoi on voit l'acte final de de certaines batailles comme Austerlitz, tu vois. Alors il va, il s'est emparé du passage sur le lac où il tire dans la glace et tout. Mm-hmm. Bon, mais ça c'est l'acte final de Austerlitz, ça tourne pas autour de ça. Donc voilà, c'est anecdotique. Mais lui, si tu veux, il a pris des images fortes de la vie de Napoléon, il a voulu les mettre un petit peu en image comme ça, et voilà comment ça, il a articulé son film. Alors moi je dis, on peut pas le juger son film, parce que justement on en a vu que la moitié.
Oui.
On n'a vu que la moitié.
Oui, c'est vrai.
On ne peut juger que la moitié d'un film. Donc, moi, si tu veux, moi j'ai eu un regard qui est quand même un petit peu avec de la hauteur. Je me dis, bon, tiens, voilà, c'est vrai que c'était chouette au niveau des certains points de vue, des choses comme ça. Bon, évidemment, il y a la prise de Toulon, tout ça. Mais voilà, avec une certaine hauteur, je me dis, bon, mais c'est tiré d'un film de 4 heures. Donc, moi, j'attends de voir là, vraiment le director's cut, comme on dit, hein, c'est-à-dire la version longue. Quoi. Parce qu'il en a déjà fait, Ridley Scott, des versions longues. Kingdom of Heaven, le film sur les croisades, c'est la version longue est d'enfer. Elle est d'enfer. On comprend vachement mieux les choses. Donc, voilà, ce que vous avez dit, vous avez peut-être vu une version très, très commerciale qui va bien s'exporter, les gens. Aux États-Unis, tout ça, ils y connaissent pas grand-chose en histoire. Enfin, je veux pas non plus les traiter de nazes, mais tu vois, ces gens, ils sont pas portés sur l'histoire. Donc, eux, ça va aller, ça va passer. Alors après, tu as dit, oui, mais je vois un Napoléon anxieux. Oui, avec les femmes, oui, absolument. Il était anxieux. Oui. Il était terriblement anxieux, d'ailleurs, de son histoire avec Joséphine de Beauharnais, bien sûr. Il y a qu'à regarder un petit peu les lettres, qu'il lui a écrites. Hein, elle était pleine d'inquiétude. Lui se retrouve à l'autre bout de l'Europe, hein, à combattre. Les coalitions, qui vont lui tomber dessus. Mais elle reste, on va dire, à la même maison, et puis elle fait sa vie. Effectivement, oui, elle a des amants, oui, elle en a eu. Effectivement, oui, Napoléon a été au courant de tout ça. Et oui, mais c'est l'époque où il n'y a pas d'hélicoptère, ni de jet, ça prend du temps pour revenir à Paris, tout ça. Donc, évidemment qu'il était inquiet là-dessus. Ouais. Oui, évidemment, évidemment. Donc, j'ai dit, ça colle au personnage. Voilà. Il y a juste une chose où, franchement, je trouve que c'est où je n'étais pas franchement d'accord, c'est quand tu le vois flipper devant le siège de Toulon, c'est, ça ressemblait pas franchement à son caractère. Moi, je le vois plutôt rentrer dedans au niveau militaire, au niveau de l'action, on va dire, sur le champ de bataille. Il était un peu plus offensif que. Parce que tu le vois flipper vraiment au début. T'as vu, là, au niveau de l'attaque,
oui,
il commence vraiment à.
Oui, il était très anxieux.
Ouais, il a
très très peur.
Voilà.
Il y a une scène relativement forte lorsque il y a la révolte des Français. Aussi, oui. Où il est face à ces gens,
oui.
Où il va tirer avec le canon.
Oui, mais ça, il le fera sans retenue.
Ouais. C'est réellement passé comme ça.
Absolument, oui, parce que encore, ils n'ont pas sorti tout ce qu'il a sorti à cette époque-là, mais il en avait parlé, ça, de cette espèce de la révolte des Français. Il y a eu la prise des Tuileries, je l'avais dit, quand j'ai fait mon papier là-dessus, qu'il avait été malade de voir à quel point le roi était si faible.
Ouais.
Et il n'avait qu'à paraître à cheval et il aurait remporté la journée. Je veux dire, les gardes-fils n'auraient pas été massacrés. Mais il aurait fallu que lui, en tant que roi de France, se présente à cheval devant le peuple. Elle était là, sa solution à lui. Donc, on lui donne donc le soin de calmer la foule. Lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il appelle la canaille, les révoltés. Il ne supporte pas ça. Les barricades, les gens qui se révoltent, les gens, surtout l'anarchie. L'anarchie, il y a qu'à voir un petit peu comme les massacres qu'il y a eu dans les prisons. Voilà, les gens qui s'emparent, on va dire, des détenus, dont certains étaient nobles, et qui les massacrent, gratuitement, comme ça, sans aveuglément. Donc voilà ce qu'il n'aimait pas, Napoléon Bonaparte. Il n'aimait pas l'effet de foule. L'effet de foule, c'est mauvais, c'est pas bon. Ouais. L'effet de foule mène à n'importe quoi, grand n'importe quoi. Donc oui, bien sûr qu'il a fait, et sans état d'âme. Oui, oui. Après, il faut se remettre un petit peu dans l'époque. C'était une époque fort troublée. Fort troublée, ouais. et c'est vrai que la République essayait de naître, on va dire, essayait de se consolider par rapport aux idées de la Révolution qui avait déjà, on va dire, été admise, on va dire, par le pouvoir, quoi.
Napoléon.
Voilà ce qu'on peut dire sur Napoléon. Ouais. Alors, moi, je vous invite, après, peut-être pour ceux qui aiment l'histoire, d'aller voir la version longue. Ouais. Il faut aller voir la version longue, évidemment.
Alors cette version longue ne sera pas forcément diffusée au cinéma.
Peut-être pas.
Parce que tu disais 4h30.
Oui, il est en cheville avec Apple TV, donc Apple TV c'est une plateforme. Ce
sera peut-être aussi l'objet d'un joli cadeau. Lorsque la version DVD sortira, à mon avis, on pourra avoir la version longue.
Ouais. La version longue de Kingdom of Heaven, elle est sortie en DVD. Bon, là je pense qu'il va quand même aller taquiner les plateformes.
Bon, on a hâte de voir la version longue pour se faire une idée finale.
Absolument,
en fait,
absolument, voilà. Mais tout ça pour dire que Moi, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film du tout.
Ah non.
Voilà. Il y a juste un truc qui m'a stressé un petit peu. Et que j'aime pas trop parce que c'est maintenant c'est un phénomène de mode, c'est les couleurs délavées. Tu vois, les couleurs grisées, ouais, grisâtres, machin. Ouais. Alors que je suis désolé, à l'époque napoléonienne, les uniformes, ils étaient rutilants, ça pétait de couleurs dans tous les sens, ouais. Du doré, du bleu, du rouge, du blanc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça avait de long. Là, c'était tout terne. Tu sais, il rentre un petit peu dans ce que j'avais. J'en avais parlé une fois, hein, tu sais, ouais, de cette exactement. Volonté de ternir les couleurs. Voilà, ça, j'aime pas trop. C'est la seule chose que j'ai pas aimé.
Ouais. Du film, ouais.
C'est la seule chose que j'ai pas aimé dans son film, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on a l'impression de voir des choses qui sont super expéditives, mais à cause de ça, à cause de ce montage.
Ouais, ouais. Alors, c'est vrai qu'on a un joli casting, hein, dans ce film, tu l'as dit. Un excellent Joaquin Phoenix,
ouais,
hein,
qui joue, les Sacre Billes d'enfer. Bon, après, il n'est pas allé trop taquiner du côté des milieux des maréchaux, hein, qui lui suivent de partout, hein, en fait, hein, Napoléon. Là, on les voit à aucun.
Oui, c'est vrai. Ouais.
On les voit à peine, tu sais, pour le sacre, quoi, ouais. À Notre-Dame de Paris. Mais voilà, mais sinon, c'est ouais. Il est passé outre. C'était pas son sujet, c'était pas son point de concentration là sur ce personnage là.
Alors la fréquentation de ce film, si on avait fait un petit bilan actuellement, ça.
Bah, la Bresse, il est bien. Oui, j'étais bon. Moi, je dis qu'il a à peu près à la hauteur de ce qui a été au niveau national. Là, au niveau national, on est à 1 million d'entrées, 1 100 000. Mm-hmm. Donc ouais, on est dans la jauge, on va dire quoi. Mais voilà, 1 million. Donc le film est sorti le 22 novembre. Là, on est au 6 décembre, il était à 1 088 909 ouais, 1000 entrées.
D'accord, ouais. Donc c'est bien, et ça nous donne encore envie de convaincre ceux qui n'auraient pas été encore au cinéma et qui seraient fait une opinion par la presse, on va
absolument.
Dire. Il faut mieux voir de ses propres yeux, comme on dit.
Exactement, oui, il fallait se rendre compte de par soi-même, bien sûr.
Très important. Merci pour cet éclairage, Pascal. On va commencer par
on va revenir.
la sélection de la semaine, hein, quelques rendez-vous cette semaine, intéressant aussi. Alors, pour les plus jeunes.
Alors pour les tout petits, migration, l'histoire des oiseaux qui migrent, les colverts, les canards, c'est bien ça.
Les grues
aussi, qui sont passées à une vitesse grand V cette année,
on a bien entendu. Oui.
Alors là, c'est vraiment le concepteur de Ernest et Célestine. Et le grand méchant Renard et autres contes, hein, qui va réaliser donc Migration, mais c'est un français, donc on va retrouver Benjamin Renner et Guillo Hansi, donc un film américain d'1h31, animation, aventure, comédie, hein. Donc c'est l'histoire de la famille Colvert qui est en proie à un dilemme d'ordre domestique. Alors que Mac est totalement satisfait de patauger paisiblement et définitivement avec sa famille dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plutôt du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer à ses enfants le reste du monde. Lorsqu'ils accueillent le temps de leur halte une famille de canards migrateurs, c'est l'occasion rêvée pour Pam de persuader Mac de les imiter et de se lancer dans un périple en famille. Destination, la Jamaïque.
Ah oui.
En passant par New York. Et c'est vrai que New York, oui, est un énorme spot de migration, hein, entre parenthèses. Alors qu'ils s'envolent donc vers le soleil pour l'hiver, le plan si bien tracé des colverts va vite battre de l'aile. Mais la tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les choses va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus que prévu. Alors Migration, donc c'est connu pour la saga Moi, Moche et Méchant, comme Des Bêtes et sa suite, Tous en scène, 1 et 2, ou encore Super Mario Bros, le film d'après le célèbre jeu vidéo, donc les studios Illumination livre avec Migration une histoire originale. Et comme on nous dit, chez Illumination, nous avons la chance d'avoir généré un certain nombre de franchises, mais nous pensons toujours qu'il est de notre devoir d'offrir sans relâche de nouvelles histoires et de nouveaux personnages au public qui nous est fidèle. La réalisation de Migration a été une aventure folle. Chaque fois que nous créons une nouvelle histoire, nous trouvons de nouveaux champs d'investigation, affirme donc le PDG donc de Illumination, donc Chris Mélédandri. Et oui, parce que il part quand même à la conquête du marché du film. Il concurrence aussi un petit peu le Disney. Quoi.
Eh oui. Ouais.
Donc voilà un petit peu pour les découvrir, voilà, un film pour les enfants, un film sur l'immigration, sur les aventures de ces petits canards.
Oui, c'est toujours très
donc ça sera à découvrir
intéressant
après.
Et aussi une petite leçon de moralité pour nos jeunes. Voilà, donc allez voir Migration cette semaine, film d'animation à la brèche. On va poursuivre avec un autre rendez-vous. Cette semaine, ça s'appelle Vonka, qui fait la une du petit fascicule du programme.
Oui.
Une jolie couverture.
Oui.
Avec beaucoup de couleurs.
Willy Wonka, ça te dit rien ?
Comme ça,
ça
attends,
te parle
je
pas.
Réfléchis.
Alors, ouais. Si je te dis Charlie et la chocolaterie,
oui, exact.
Ça va mieux déjà. Là. Voilà, c'est le personnage qu'il y a dedans.
Oui, effectivement, ça fait penser.
Ouais. Oui. Ouais. Et oui, parce que la dernière fois qu'on l'a vu à l'écran, alors il y a, je crois que Wonka, il y en a eu plusieurs de faits là-dessus, à ce sujet-là. Mais enfin, le dernier, c'était celui de Tim Burton.
Ouais.
Et qui s'appelait Charlie et la chocolaterie, alors qui tirait d'un conte, hein, qui tirait d'une histoire assez populaire. Donc c'est Paul King qui réalise le film, donc qui a réalisé déjà Paddington 1 et 2. Hein. C'est lui le réalisateur. Donc c'est un film américain d'1h57, un film d'aventure fantastique. Hein. Alors au niveau des acteurs, évidemment. Évidemment. On va retrouver Timothée Chalamet.
Que tu vas nous présenter dans quelques instants.
Ouais, voilà. On va retrouver Keegan Michael Key, Patterson Joseph, Matt Lucas, Matthew Bonstone, Sally Hawkins et Rowan Atkinson. Ça te dit rien, Rowan Atkinson? Normal. Mais si je te montre sa photo, tu vas me faire « Ah ouais, je le reconnais bien ». Rowan Atkinson, c'est Mr. Bean.
Oui, évidemment.
C'est l'acteur de Mr. Bean.
Eh oui, c'est vrai. Ouais.
Donc découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl dans le film Wonka. Donc Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise. Cette œuvre haute en couleurs, mêlant émotion et humour, prouve que dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité. Surtout si on a la chance de rencontrer Wonka, bien sûr. Alors c'est un projet de longue date, évidemment. Wonka est un projet qui a émergé en 2016, lorsque Warner a obtenu les droits du fameux personnage de Willy Wonka, créé par Roald Dahl avec Charlie et la chocolaterie, donc il a été publié en 1964. Et c'est en 2018 que l'idée de faire un préquel à son roman émerge. Cette même année, le réalisateur est choisi. Il s'agit de Paul King, à qui l'on doit Paddington et sa suite. Plusieurs acteurs sont envisagés dans la foulée pour camper Willy Wonka. Avant Timothée Chalamet, donc parmi eux donc, ont été choisis avant Donald Glover, Ryan Gosling, Ezra Miller et Tom Holland. Alors deux autres acteurs ont incarné le personnage de Wonka au cinéma, donc Gene Wilder dans Charlie les chocolateries de Mel Stewart en 71. Tu vois, ça date quand même le premier. Et Johnny Depp dans Charlie la chocolaterie en 2005 de Tim Burton. Par ailleurs, le long métrage animé donc Tom et Jerry au pays de Charlie la chocolaterie Wonka est un remake animé de Charlie et la chocolaterie de 1971. Alors, polémique, alors moi j'avais pas du tout reconnu dans les photos, franchement, mais Hugh Grant incarne un Oompa Loompa. Alors tu le vois dans le film, il est tout vert. Un personnage de petite taille. Et ça fait polémique. Pourquoi ?
Parce qu'il est grand.
Exactement. Il s'agit de la première fois que le rôle de Oompa Loompa est interprété par un acteur n'étant pas de petite taille. Un choix qui a été commenté et que déplore précisément l'acteur George Coppen, vu notamment dans la série Willow. Tu te souviens de Willow ? Sollicité par la BBC, celui-ci a indiqué « Willow, c'est un film sur les chevaliers et tout ça, mais il arrive au pays des nains, donc il jouait là-dedans. Donc, comme il nous dit... Beaucoup d'acteurs de petite taille ont le sentiment qu'ils sont mis à l'écart de l'industrie, poussés dehors avec amour. Beaucoup de gens, dont moi-même, considèrent qu'on devrait leur proposer des rôles tous les jours dans des drames ou des séries quotidiennes, mais on ne nous offre pas ces rôles. Une porte se ferme, mais ils ont oublié d'ouvrir la prochaine. Oui, il n'est pas content, mais ça c'est normal. Ça c'est oui. Donc Timothée Chalamet a eu plusieurs problèmes de ventre en raison des grandes quantités de bonbons, gâteaux et chocolats qu'il mangeait pendant le tournage.
Ah, en vrai ?
En vrai. Grâce notamment à une chocolatière de génie engagée pour les besoins du film. Paul King a déclaré que le jeune acteur a pris environ 20 kilos.
Oh, tu m'étonnes.
J'ai quand même du mal à y croire. Il est tout petit.
20 kilos ?
C'est une crevette, Chalamet.
Bah oui, mais
en plus, ça arrive.
20 kilos,
mais c'est... Mais oui, mais tout petit, il est pas grand, il est tout fin. S'il a pris 20 kilos, c'est que déjà, il ne devait pas peser beaucoup avant. Alors, Paul King a proposé le rôle de Wonka donc à Timothée Chalamet, sans même lui faire une audition, car il connaissait ses capacités musicales. Après avoir visionné les performances du jeune acteur sur des vidéos YouTube dans lesquelles il s'adonne à l'exercice du rap. Alors ça, je ne savais pas, quoi.
Non.
Lorsqu'il était au lycée. Et comme il nous dit, c'était une offre directe parce qu'il est génial et qu'il était la seule personne dans mon esprit qui pouvait le faire. Mais parce qu'il est Timothée Chalamet et que sa vie est tellement absurde, ses performances musicales au lycée sont sur YouTube et dont ont des centaines de milliers de vues. Oui, ça, j'imagine bien.
Ouais.
Il nous dit aussi, J'ai donc su qu'il pouvait très bien chanter et danser. Je savais que c'était dans son arsenal, mais je ne savais pas à quel point il était bon. Quand je lui ai parlé, il était très enthousiaste. Il avait fait des claquettes au lycée et il s'est dit « J'aimerais bien montrer aux gens que je peux faire ça. » Sacré Timothy.
Voilà.
Voilà un petit peu pour vous éclairer sur
la
nouvelle version donc, de Charlie et la chocolaterie, donc à redécouvrir à la brèche cette semaine.
Ouais, ça sera intéressant de voir ce volet, ce nouveau volet de ses aventures. Et puis, je suppose que c'est un film rempli de couleurs.
Absolument. Et donc il y aura, alors je dis cette semaine, mais c'est l'avant-première cette semaine, hein, donc ça sera le dimanche 10.
Ouais.
À 15h45 à la brèche, donc l'avant-première.
D'accord. Eh bien, c'est noté.
Pour une sortie, donc voilà, le mercredi d'après.
Voilà, ça sera l'occasion de vous faire là aussi une petite opinion de ce joli rendez-vous à la brèche. On va passer à d'autres réjouissances et ça va justement donner un petit peu le tempo et le compte à rebours des fêtes de fin d'année, notamment de Noël, puisque cette fois-ci on va parler de Noël, mais
joyeux.
Un joyeux Noël, mais
Noël joyeux.
Noël joyeux. Et là, ça va être assez sympa.
Voilà. On va parler de la dernière comédie de Clément Michel.
Ouais.
Un film français d'une heure 27. C'est une comédie avec
Franck
Dubosc qui nous revient.
Ouais.
Et Emmanuel De Vos.
Exactement, qu'on va voir dans d'autres films.
Franchement, on va dire, dans ce genre d'univers, je la vois, des films plus sérieux, Emmanuel De Vos.
Ouais.
Daniel Lebrun, Daniel Fichot, Jean-François Quéré, Fabienne Calula, Dominique Fro et André Pemvern. Alors Noël chez les Barans, c'est sacré. Surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de venir, de voir donc toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue, au dernier moment, il ne conçoit pas l'idée de passer les fêtes en tête-à-tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esselée à venir fêter Noël chez eux. Débarquent alors Monique et sa meilleure amie, donc Jeanne, qui vont très vite prendre leurs aises et semer un joyeux bazar. Pour tous les quatre, ce 24 décembre promet d'être aussi explosif qu'inattendu.
Ah, je crois qu'ils ont fait un petit casting, une recherche dans une EHPAD de Paris,
c'est vrai.
Ouais, pour justement trouver des invités. Ouais.
Mais c'est chouette ça.
Ouais.
Donc Noël joyeux est né d'une anecdote racontée à Clément Michel par sa mère. Un couple de ses amis avait invité pour Noël une dame d'un EHPAD.
Ouais.
Qui est finalement venue accompagner. À elles deux, elles avaient totalement explosé la soirée. J'ai inventé tout le reste. Ce qui me plaisait, outre le point de départ étonnant et amusant, c'était de traiter du conflit de génération. Donc, au moment de l'écriture, Clément Michel avait quelques idées en tête pour le casting sans qu'elles soient définitives. L'idée de proposer le scénario à Franck Dubosc s'est imposée ensuite assez rapidement et l'acteur a accepté. Et comme il nous dit, j'ai eu alors envie d'une association inédite et inattendue à laquelle j'avais pensé et j'ai envoyé le scénario à Emmanuel De Vos, une actrice que j'aime profondément, que j'ai toujours trouvé drôle, mais que je ne connaissais pas. Elle a par chance rapidement donné son accord, très excitée de travailler avec Franck. En tant que réalisateur, mais aussi comme spectateur, c'est un duo que j'avais vraiment envie de voir à l'écran. Alors ce qui a séduit Emmanuel De Vos, parce que c'est quand même pas, c'est trop son univers, hein, ce genre de comédie un petit peu légère. De Vos, en premier lieu, dans le projet, ça a été une lettre de Clément Michel qui accompagnait le scénario. Donc comme il nous dit, ce n'est pas si courant, comme il nous dit. Il me disait en substance qu'il ne m'avait jamais vu dans une comédie et qu'il avait pensé à moi en écrivant. Cela voulait dire qu'il avait fait attention, qu'il connaissait ma filmographie et j'ai trouvé cela assez classieux. Peu habituée à tourner dans des comédies, l'actrice a pris grand plaisir à s'essayer à ce registre. Et comme elle nous dit, tous les acteurs veulent faire des comédies, surtout ceux qui, comme moi, évoluent plutôt dans du drame. En tournant le film, j'ai compris que cela déplace le jeu à un autre endroit. Ce que je ne connaissais au théâtre, mais pas au cinéma. La comédie demande une énergie et une mécanique différentes et surtout une très grande vérité. Et donc un premier degré que j'ai trouvé vraiment intéressant à jouer. Et oui, c'est une nouvelle expérience pour elle, hein, mine de rien. Donc en écrivant Noël joyeux et en faisant des repérages dans les maisons de retraite, le réalisateur a été touché par la solitude que peuvent traverser les personnes âgées. Et comme il nous dit, même si cette comédie est joyeuse, elle pose quand même le problème plus grave qui est d'actualité. Qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées ? J'ai essayé de l'évoquer dans sans pathos avec les ressorts de la comédie, mais c'est assez émouvant. Et oui, combien de personnes âgées passent Noël seules dans les EHPAD. Ça, ouais. Ça serait intéressant, moi je pense, beaucoup, beaucoup. Donc pour incarner les deux âmes âgées, le réalisateur a choisi Daniel Lebrun et Daniel Fichot. C'est par le biais de Gaumont qu'il a rencontré cette dernière. Il a assisté à une projection d'Aline de Valérie Lemercier avant sa sortie et a eu immédiatement envie de lui envoyer le scénario de Noël Joyeux. Et comme il nous dit, je ne voyais personne d'autre pour ce rôle. Miracle, 5 jours après, elle disait oui. Il fallait alors lui trouver la partenaire idéale et Daniel Lebrun fait partie des actrices cultes qui m'ont fait rêver au théâtre et au cinéma. Quand elle a donné son accord, j'ai été transi de bonheur. Déjà, naturellement, le contraste entre elles était une promesse forte, aussi bien en comédie qu'en émotion. Voilà un petit peu pour vous parler un petit peu de cette comédie un petit peu légère, une comédie de Noël.
Ouais, ça va nous plonger carrément dans l'ambiance de Noël. On en a eu quelques films assez décalés. Bon, bien évidemment, Le Père Noël est une ordure, mais ça c'est vieux.
Oui.
On a bien rigolé à l'époque.
Ouais, ouais.
Hein, c'était vraiment le film à voir avant Noël.
Ouais.
Je crois que ce film-là, c'est un film qui tombe pile poil justement avant ces fêtes de fin d'année.
Un peu léger, oui. On a besoin un petit peu.
Voilà, on va écouter le teasing, et surtout, comme dit l'actrice, ce qu'elle adore, c'est massage des pieds.
Vous arrivez à quelle heure, les chéris?
Cyril t'a pas prévenu? On part pour l'île Maurice, il nous a fait une surprise.
Quel salaud.
Eh ben, moi, ça me plaît d'être tous les deux.
Chérie, Noël n'est pas là pour être romantique. Noël, c'est la fête de la famille.
Beaucoup de gens sont isolés le soir de Noël, alors pourquoi ne pas inviter chez vous une personne seule?
Pourquoi tu veux inviter un vieux chez nous?
Recevoir quelqu'un qui a plus de famille, c'est une belle idée, non?
Choisis bien notre invité.
Il est venu me chercher!
J'ai pas la SPA récupérer un chien.
Mamie?
Ah ben.
Je vous présente Monique.
Monsieur Vincent, on peut emménager avec vous.
Vous êtes
mort de froid.
On en a deux pour le prix d'une. C'est Black Friday à l'EHPAD.
Oh, ça pue le poisson.
C'est du bar à la truffe.
Ça fait pas très Noël.
Je prendrais bien la petite sœur, moi.
Je vois bien un bonsaï qui clignote, mais je vois pas de sapin.
Y a pas plus grand. T'es au deuxième. Y a pas plus grand.
Je vais la buter, je sens que je vais la buter.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Un massage des pieds.
C'est du rhum.
Et Monique, c'est du parfum.
J'en peux plus de Noël.
Ouais.
Je vous en supplie, faut arrêter maintenant.
On est des gens bien, Béatrice. Des gens bien.
Je vais garder un souvenir unique de ce Noël.
On passe au cadeau.
Honneur au plus jeune, à vous, Vincent.
Non, c'est Béatrice, la cadette.
J'aurais pas dit.
Non, mais c'est normal. 3 accouchements, ça marque.
Voilà, je pense qu'on va passer un excellent moment. Et surtout, si on a envie de se détendre,
voilà.
Invitez les mamies à votre Noël, vous ne serez pas déçus.
Bien sûr, c'est une très bonne idée.
Voilà, Noël joyeux, c'est à voir cette semaine sur les écrans de La Brèche.
Voilà, en sortie nationale.
Et en sortie nationale, allez. Vous allez apprécier. On va poursuivre avec un autre rendez-vous, Pascal, cette semaine.
Alors, un très bon sujet. Un très bon sujet. Moi, c'est, voilà,
ah oui, tu en parlais tout à l'heure. Hein, c'était
oui.
En prélude de.
Exactement.
De la Deuxième Guerre mondiale.
On va parler du dernier film de Katell Kyerhe. Le temps d'aimer, un film franco-belge de 2h05, c'est une drame romance. Ce film-là a eu 4 nominations et un prix. Il a reçu le Valois du meilleur acteur au Festival du film francophone d'Angoulême. Donc pour Vincent Lacoste. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Anaïs de Moustier, Vincent Lacoste, Paul Beaurepaire, Morgan Bailey, Ambre Golut, Dylan Hawkes, Luc Batteny et Elios Cario. Alors évidemment, on est en 1947, on est après évidemment cette Seconde Guerre mondiale qui a ravagé la planète entière pratiquement. Sur une plage, donc Madeleine, serveuse dans un hôtel-restaurant, mère d'un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c'est comme une évidence. La Providence, si l'on sait qu'elle veut laisser derrière elle en suivant ce jeune homme, on découvre avec le temps ce que François tente de fuir en mêlant le destin de Madeleine au sien. Alors le point de départ du temps d'aimer trouve son origine dans l'histoire de la grand-mère de Katell Kyerhe, qui a toujours fait sentir qu'elle avait un secret. La réalisatrice a aussi toujours su confusément qu'il fallait ne lui poser aucune question et respecter son silence. Jusqu'à ce que quelqu'un de l'extérieur, à la famille, en l'occurrence son compagnon, l'a aidé à découvrir la vérité. Et elle explique. Pendant l'occupation, elle a eu une relation avec un soldat allemand dont elle est tombée enceinte. Elle s'est retrouvée mère célibataire à 17 ans. Elle a rencontré mon grand-père 4 ans plus tard sur une plage de Bretagne. Il était d'un milieu social beaucoup plus aisé que le sien. Il l'a poussée contre l'avis de ses parents à adopter son enfant. Le secret de la vraie paternité de cet enfant a été découvert très tard. Ma grand-mère avait plus de 80 ans et mon grand-père était mort depuis très longtemps. Leur couple et son mystère me questionnera toujours. Il y a donc ce point de départ très personnel, puis l'imagination a totalement pris le relais sur les scénarios. Et le scénario est devenu fiction. Donc le couple et son mystère. Donc Kateki Everet a écrit le scénario avec Gilles Torrent, avec qui elle a déjà adapté « Réparer les vivants », le roman de Maëlys de Kerangal. Au cœur de leur désir d'écriture, il y avait la question du couple et son mystère. Et la cinéaste précise. Le couple comme une fiction que l'on invente à deux, à laquelle on décide de croire, de se vouer pour des raisons qui parfois nous échappent, une folie à deux comme l'écrit Roland Barthes. Qu'est-ce qui peut aimanter une jeune serveuse de restaurant, une fille mère comme on disait avant, et un étudiant de bonne famille, quelque peu mélancolique et désœuvré? On a imaginé dans cette rencontre fortuite quelque chose de précipité, comme s'ils étaient l'un et l'autre en cavale. Immédiatement, sans doute inconsciemment, une part d'eux-mêmes se reconnaît en l'autre. Sans doute la part blessée, la part inconsolable et honteuse qui doit être achevée, cachée pardon, pour survivre. Donc dedans, il y a le traumatisme de l'attente. Et c'est là que je me suis permis de vous faire un petit parallèle historique pour bien comprendre le phénomène. Le traumatisme de l'attente est fondateur dans le parcours de Madeleine. Kateki qui est verrée à regarder beaucoup d'archives autour des tontes pour réfléchir à la représentation de ce moment par la fiction. La réalisatrice a très vite réalisé qu'elle ne pourrait jamais être à la hauteur de la puissance qui surgissait de ces images. Elle confie. D'ailleurs, je n'avais plus aucun désir de les reconstituer. Avec Jean-Baptiste Morin, mon monteur de film, nous avons donc décidé de construire un récit à partir de toutes les archives de tontes qui pouvaient exister dans les fonds d'archives françaises, américaines et anglaises. C'était devenu essentiel pour moi d'ancrer ma fiction dans ce réel. Ça me semblait nécessaire pour que le spectateur prenne vraiment la mesure du traumatisme qu'ont représenté ces actes d'une immense violence. Ils n'ont pas du tout été suffisamment pensés, travaillés par notre société. D'ailleurs, la plupart des images que je montre n'ont jamais été vues par personne. À partir de là, le sens de mon film est aussi devenu évident. Que devient une femme une fois qu'elle a vécu ça? Une fois qu'elle rentre chez elle, le crâne rasé, profondément humilié, c'est dans cet après que démarre la fiction. Le temps d'aimer raconte la vie d'une femme, Madeleine, qui a vécu ce traumatisme. Il imagine son parcours affectif, sexuel et social vers la résilience. Car la pulsion de vie de Madeleine l'emporte toujours. Pourquoi j'ai voulu faire ce parallèle? Parce que ça me fait penser à une affaire qui est très connue, enfin pour ceux qui regardent un petit peu les documentaires historiques. Alors il n'y a pas que des photos, il y a des films. Des films que j'ai vus, entre parenthèses. Et il y a un documentaire sur lequel je suis tombé et qui s'intitule « L'étendue de Chartres ». Pourquoi sont-ils si célèbres? Parce que déjà ils sont passés dans la presse américaine. Parce que qui était à la libération de Chartres avec une division de blindés? Robert Capa.
Ah ouais.
Robert Capa, celui qui a photographier les DIY au débarquement de Normandie, qui a même été blessé, évacué en vitesse, Robert. Donc ils étaient deux sur là. Et pourquoi il a été frappé? Pourquoi? Et parce qu'il a vu un spectacle qu'il n'avait pas l'habitude de voir déjà. Déjà, non seulement ces femmes-là étaient tendues donc, mais aussi la tenue de Chartres, du moins une d'entre elles, a été marquée au fer rouge avec une croix gammée sur le front. Et pourquoi Franck Capa s'est penché sur son personnage? Parce qu'elle tenait son enfant. Son enfant né d'un soldat allemand. Vous voyez comment un peu mieux pourquoi je fais le rapprochement avec le scénario donc, de ce film-là, Le Temps d'aimer. Parce que ça ressemble étrangement à cette affaire-là. Mmh. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire un parallèle historique pour bien comprendre le phénomène. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est quelque chose qui est horrible. Moi, je vous invite des fois, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu les images, regardez un petit peu, surtout la vindicte populaire. Regardez un petit peu comment se comportent les gens. Peut-on juger? Non, on ne va pas juger l'histoire. Ces images sont absolument atroces. Mmh. Mais pire que, on va dire, des gens qui ont des dingues aux flingues. C'est de l'humiliation à travers toute la ville de Chartres. Donc Robert Capa débarque avec la 7e division blindée, donc avec son collègue, c'est Ralph Morst. Donc la femme tendue, évidemment, qu'on voit sur la photo, elle s'appelle Simone Touzeau, qui est une jeune chartraine de 23 ans. Et le bébé qui la tient dans ses bras est sa fille Catherine, née quelques mois plus tôt de sa relation avec un soldat allemand. La jeune femme est née en 1921. Alors tu vas voir l'imbroglio, on va dire, et comment on bascule là-dedans, quoi. Donc la jeune femme est née en 1921 à Chartres, fille cadette d'un couple qui tient une crèmerie, poissonnerie, périclitant dans les années 30 de la Grande Dépression. Elle reçoit une éducation catholique conservatrice. Ses parents ne sont pas politisés, mais ils vivent mal leur déclassement. Son père devient manœuvre, rongé par la frustration et la haine du Front populaire. Voilà, c'est intéressant. Ses parents développent des idées ouvertement d'extrême droite. Elle fait ses études dans une école catholique, brillante élève, mais elle vit mal la faillite en 35 du commerce familial et la dégradation sociale de sa famille. Elle se fait remarquer dès avant la guerre par ses idées fascistes, dessinant des croix gammées sur ses cahiers, disant à ses camarades que la France, avant elle, avait-elle aussi besoin d'un Hitler. On est juste après la Grande Dépression. Donc le nazisme était un modèle de relance économique. Ça s'est passé comme ça en Allemagne. Elle réussit son baccalauréat en 41, une époque où seulement 5% des filles le passaient. Ayant appris l'allemand, elle postule juste après son baccalauréat pour un poste de secrétaire traductrice à la commande en tour de Chartres, où elle est engagée et affectée à la caserne de Marceau. Elle y fait rapidement connaissance d'un soldat allemand, donc Eric Gose, âgé de 32 ans, issu de la bourgeoisie protestante du Bade-Württemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il a travaillé comme bibliothécaire avant-guerre après ses études de sciences humaines. À Chartres, il est responsable de la librairie de l'armée allemande. Selon Gérard Leray, qui a enquêté sur Simon Touzeau et après la famille, auprès de la famille d'Eric Gose, celui-ci garde ses distances vis-à-vis du national-socialisme. Les deux tombent néanmoins amoureux et entament une relation non cachée. Ils s'affichent ensemble dans les rues de la ville et Gose se rend quotidiennement chez les Touzeau. Donc, à l'automne 42, Gose est muté sur le front de l'Est. Il débute alors, via un camarade resté à Chartres, une correspondance avec Simone. Au printemps 43, Simone adhère au Parti populaire français, le parti collaborationniste évidemment de Jacques Doriot. Blessé cette même année, Gose est hospitalisé à Munich. Simone postule alors au STO et réussit à se faire envoyer dans cette ville pour travailler chez BMW, qui déjà, oui, ne faisait pas que des voitures. Elle rend alors régulièrement visite à Gose et rencontre même une fois sa famille. Elle tombe enceinte de lui et Eric Gose souhaite alors reconnaître l'enfant et épouser Simone, mais il va se heurter au refus de l'administration allemande, et oui, qui voit d'un mauvais œil ce type de relation avec les travailleurs et les étrangers. Lorsque sa grossesse devient visible, Simone Touzeau est renvoyée en France en novembre, où son père manque de la tuer pour avoir sali l'honneur de la famille. Elle accouche donc le 23 mai 1944 d'une petite fille qu'elle prénomme Catherine. Eric Gose, lui, a été renvoyé sur le front de l'Est où il meurt le 8 juillet 1944 près de Minsk. Quelques jours après avoir été tondu et exposé à la vindicte populaire, donc c'est elle qui se fait marquer au fer rouge, Simone Touzeau et sa mère Germaine sont accusés d'avoir dénoncé 5 habitants de leur quartier, de la rue de Beauvais, évidemment, tout le monde s'accuse de tout, à cette époque-là, où Simone habite avec ses parents. Dès la nuit du 24 au 25 février 1943, la CIPO SD, donc qui est une espèce de police infernale, avait arrêté 5 chefs de famille et les avait accusés d'être des ennemis de l'Allemagne et d'écouter la BBC. Déportés au camp de Mauthausen en Autriche, 2 y mourront. Le 6 septembre, les deux femmes sont incarcérées à la prison de Chartres, puis au camp de Pithiviers dans le Loiret. Qui, entre parenthèses, était un camp de déportation avant. Georges Touzeau, présenté comme un brave homme qui ne sait pas tenir ses femmes de sa maison, lui est laissé libre. Il n'est pas incriminé. Ainsi qu'Annette, la sœur aînée de Simone. Mais les 4 membres de la famille sont inculpés d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, un crime passible de la peine de mort. Le 1er mars 1945, Simone et sa mère sont ramenés à Chartres pour leur procès. Leur avocat, habile Claude Gerbet, fait traîner la procédure jusqu'au printemps 1946. Or, à partir du 15 janvier 1946, les jugements ne sont plus rendus à Chartres, mais à Paris, où les jugements seront plus cléments. À Chartres, la Cour spéciale et la Chambre civique ont condamné 162 personnes, dont 7 à mort pour des faits de collaboration. Le dossier Touzeau est donc transféré à un tribunal parisien. Simone Touzeau se défend en accusant son ancienne amie, expliquant qu'elle avait dit « Je suis bien contente car je suis débarrassée de ces gens qui ne m'appelleront plus ni espionne ni boche. » Donc, Ella Amersine Meyer, qui était son amie, avec fui Chartres avec les Allemands le 15 août 1944. Après une longue instruction le 26 novembre 1946, la cour relève l'insuffisance de charges et relaxe les deux femmes alors retenues à la prison de la Roquette à Paris et qui sont libérées le lendemain. C'est pendant son incarcération que Simone Touzeau apprend la mort d'Eric Gose, non, son ancien compagnon. Bien que libre, elle est traduite devant une chambre civique et le 8 mars 1947, elle est condamnée à 10 ans d'indignité nationale. Mais le tribunal la dispense de l'interdiction de séjour. La famille Touzeau quitte néanmoins Chartres et va s'installer à 40 km de là, à Saint-Arnoult, en Yvelines. Simone trouve un emploi dans une pharmacie, se marie en novembre 1954 à un comptable avec qui elle a 2 enfants. Dans les années 50, elle se rend plusieurs fois avec son premier enfant, donc en Allemagne, voir la famille Gose. Ses visites et son passé finissent par se savoir à Saint-Arnoult, elle va perdre son travail, sa famille se brise et elle sombre dans l'alcool et la dépression. Elle meurt en 66 à 44 ans. Voilà pourquoi je vous fais un parallèle, parce que celui-ci était nécessaire pour mieux rentrer un petit peu dans le vif du sujet, parce qu'il est question de ça. Il est question, on va dire, de l'après-guerre, il est question de toutes ces vengeances, de toutes ces la vindicte populaire, les gens qui, bref, une sale époque. Vraiment une sale époque. Alors, elle est imagée, évidemment, on peut voir les images sur YouTube, mais quand vous verrez l'étendue de Chartres et quand vous verrez cette pauvre femme avec son enfant, avec tous les chartrains tout autour, les résistants en train de lui mettre des baffes, les coups de pied, les coups de poing, tout ça, et bien voilà, vous poserez une pensée pour Simone Touzeau, et donc, qui a dû endurer tout ça. Alors, comme quoi, c'est pas simple, au sortir de la guerre, c'est vraiment quoi. Alors, juste pour l'anecdote, et celle-ci, elle est vraie, dans le public, il y avait un petit garçon qui a parlé de ça, qui a assisté à la tonte de certaines chartraines. Et il s'appelait Jean Rochefort.
Ah oui?
Et oui. Il s'appelait Jean Rochefort, il était tout jeune, il était à Chartres ce jour-là. En août 44, il en a parlé. Hein. Mmh. Et lui, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. Et ça l'a beaucoup fait vomir. Voilà un petit peu pour plomber l'ambiance. Mais je suis désolé.
C'est très intéressant.
Mais voilà, mais c'est super intéressant. Voilà pourquoi je voulais faire un parallèle, parce que c'est pas des choses à prendre à la légère. C'était vraiment des voilà, ça aide mieux à comprendre un petit peu comment on sort un petit peu en 47 de tout ça, quoi. C'est comment la société française, on va dire à traiter ces problèmes-là, quoi. Pas toujours de la meilleure des façons.
Merci Pascal pour ces précisions. Donc Le Temps d'aimer, tu en parlais il y a quelques instants avec Vincent Lacoste et Paul Beaupère. Vous allez passer un excellent moment, en tout cas pour ce joli film. On va enchaîner avec Mars Express. Alors on va pas aller aller sur la planète. Rien à voir avec l'esprit astronaute.
Eh bien si, mon ami.
Ah, bon, ah d'accord. J'avais pas vu.
Oui.
D'accord, donc on va aller sur la planète Mars. Ok, d'accord.
Film d'animation dans science-fiction de Jérémy Perrin. Mars Express, film français d'une heure 25. En l'an 2000, Aline Ruby, détective privé, obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire dans Android, on va parler d'intelligence artificielle.
Ah oui, d'accord.
Sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noétis, la capitale martienne, à la recherche de June Cho, une étudiante cybernétique disparue. Noctis est leur ville une utopie libertarienne rendue possible par les progrès en robotique, emblème du futur tourné vers les étoiles. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité. Ces institutions corrompues, ces trafics, ces fermes cérébrales et les magouilles de toutes puissantes corporations. Mais des tueurs cyber augmentés ont eux aussi pris pour cible June Cho. Aline et Carlos se lancent dans une course désespérée pour sauver cette jeune femme qui, sans le savoir, détient un secret capable de menacer l'équilibre précaire sur lequel repose leur civilisation. Alors, ça se passe en l'an 2000, mais alors, évidemment, on l'a dépassé, on n'est pas sur Mars. Mais c'est pas grave, je trouve ça un bon scénario sur l'intelligence artificielle et ses dérives.
Ouais.
Ses dérives. Bon, on va parler du dernier documentaire donc de Roland Nurier, Yalla Gaza. Alors évidemment, ce film déjà est sorti le 12 décembre.
Ouais.
Va sortir le 12 décembre. Mais évidemment, la réalisation est vraiment antérieure, on va dire, à tous ces phénomènes-là qui se sont passés là-bas en Palestine, c'est-à-dire l'incursion palestinienne dans le territoire israélien et la réplique israélienne en territoire palestinien. Ça s'est passé bien, bien avant. Ouais. Bien avant. Donc, on va... Donc, documentaire de Roland Nurier. Donc, le film est sorti donc, le 8 novembre, hein, j'ai pas dit le 12 décembre. Pourquoi j'ai mis le 12 décembre? Ah non, c'est ça, oui, la soirée clin d'œil, pardon. Ouais, je me plante un petit peu dans les idées. Oh là. La soirée clin d'œil donc, aura lieu donc, le 12 décembre donc, à 20h donc, à la Brèche. Hein. Donc, Gaza donc, est un petit territoire palestinien de 40 km sur 12. Il ne faut pas oublier que c'est tout petit. C'est un mouchoir de poche, un confetti. 40 km sur 12, c'est que dalle.
La densité est énorme.
Où vivent.
La densité est énorme.
Oui. Plus de 2 millions de personnes. La population est complètement enfermée depuis 2007 par Israël et régulièrement bombardée au mépris des règles de droit international et conventions des Nations Unies. La société est encore structurée et organisée, mais pour combien de temps ? Les nombreux témoignages des Palestiniens de Gaza sont mis en perspective d'analyses de responsables politiques locaux, d'historiens, de journalistes, d'israéliens, de juristes et spécialistes de Palestine-Israël. Les Gazaouis parlent de leur quotidien, de géopolitique, de religion, de sionisme, de droit international, bref, de tous les éléments nécessaires à la compréhension du vécu de cette société palestinienne et de son environnement si anxiogène. Appréhender leur résilience pour que le désespoir ne s'installe pas et comprendre comment se transmet de génération en génération cette flamme de la culture et de la terre. Là, pareil, une grosse page d'histoire quand même. Parce que si on regarde un petit peu, on va dire, le territoire palestinien en 1947, il ne ressemble en rien au territoire palestinien d'aujourd'hui. Voilà, il s'est réduit comme peau de chagrin par les invasions, les incursions, les prises de territoire. C'est une histoire très, très, très complexe, le phénomène palestinien. Alors, il a explosé. Il a explosé en octobre, comme tout le monde le sait. Et on a les images régulièrement tous les jours, je ne vais pas revenir dessus. C'est une horreur d'un côté comme de l'autre. Et c'est encore une guerre qui se rajoute et dont on n'a pas besoin, entre parenthèses. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, qu'il y ait une soirée clin d'œil qui parle un petit peu de ça, justement avant ces événements-là, justement.
Ouais.
Donc, ça se représente donc de André Rosseweg, qui est porte-parole de l'UJFP, qui est l'Union juive française pour la paix, et pour l'antenne d'Aquitaine. Donc vous pourriez donc à l'issue de cette soirée, donc le mardi 12 décembre à 20h, discuter avec Monsieur André Rosseweg.
On va enchaîner avec l'acteur de la semaine que tu nous as préparé, que tu as choisi parce que tout simplement on le voit dans un très beau film cette semaine à la brèche. Timothée Chalamet, ou Chalamet.
Ah, Chalamet ou Chalamet, oui.
À vous de choisir.
Oui. Oui, comme je disais, la cloque de ces dames, hein. Oui. Ouais. Le dandy de ces demoiselles, apparemment, il est très très à la mode en ce moment. On va parler, oui, de Timothée Chalamet, oui, évidemment. Donc, il est né le 27 décembre 1995 à Hell's Kitchen, dans l'état de New York. Alors, Hell's Kitchen, ça veut dire la cuisine du diable.
Ah oui. Ok, ouais. D'accord.
Dans l'état de New York, ce qui nous fait un jeune homme de 27 ans. Donc Timothée Chalamet, c'est 15 années de carrière, 32 films tournés, 8 nominations, pas encore de récompense. Bon, ça va venir, il a le temps.
Oui,
il a
c'est ça.
Alors Timothée Chalamet, on le voit apparaître pour la première fois dans un court-métrage qui s'appelle Clown en 2008. De 2008 à 2012, il fera des séries. Ce sera un acteur de série, comme Royal Pains, Homeland, Trooper. Voilà des séries où il jouera dedans. Donc ça occupera sa carrière de 2008 à 2012. En 2014, on le verra dans son premier film, Men, Women and Children de Jason Reitman. En 2014, on le verra dans le film de Christopher Nolan, avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway. J'ai nommé le film qui fait des mal à la tête. Interstellar.
Ah oui, c'est très technique. Hein.
C'est très technique, mais surtout le passage de la bibliothèque. Moi, franchement, là, j'ai commencé à avoir une petite migraine. Bon, il a fallu que je prenne un petit peu de recul et tout.
Mais tu l'as jamais rêvé, ça ?
Non.
Ça se rêve,
d'accord.
Oui, mais c'est...
Celui-là, non, mais en plus...
Mais ça se rêve, hein. t'es bloqué
dans la bibliothèque.
Dans l'espace-temps, dans la bibliothèque, tu ne peux pas partir. C'est horrible.
Non, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce passage-là. Mais d'ailleurs, pas que ce passage-là, parce que c'est vrai qu'il commence comme un film classique et tout, puis après tu commences
mais justement, la fin est liée au début du film. Hein.
Oui. Oui, exact. Comme si le temps était une énorme boucle et qu'il n'y avait plus d'espace-temps, qu'il n'y avait plus de.
Non, mais ce qui est.
Et que les limites sont. En fait, qu'il n'y ait plus de limites, si tu veux, entre Mars et la Terre, quoi.
Ouais.
Que le tout forme un tout. Le tout soit le même univers, on va dire, dans une espèce de dimension unique. Voilà pourquoi je te dis, ça fait mal à la tête.
Oui, parce que, la bibliothèque, quand t'es pris dans la bibliothèque, c'est compliqué d'en sortir.
Et oui, exactement, oui, c'est pour ça.
T'as beau pousser les livres, mais t'y arrives pas. Oui.
Donc, je me souviens
c'est
vraiment, vraiment
de ce
C'est claustrophobe. C'est assez claustrophobe, ouais. En 2018, on le verra dans un film de Luca Guadagnino dans Call Me By Your Name. En 2017, alors moi j'ai adoré son personnage dans ce film-là, Timothée Chalamet. Parce que déjà, je ne savais pas qu'il s'appelait Timothée Chalamet dedans. Mais j'ai adoré son rôle. On le verra dans le film de Scott Cooper, un grand film avec Christian Bale et Rosamund Pike. Hostiles. Oh, c'est ça, j'en ai fait la pub, j'ai dit aux gens, venez voir ce film, venez voir, parce qu'il colle à l'histoire, Hostiles. C'est un très grand film. C'était un western des temps modernes, on va dire. Enfin, ah oui. Pas des temps modernes, mais on va dire, c'était un western, on va dire, avec une vision, on va dire, un peu plus moderne. C'est pas les gentils tuniques bleues, les méchants indiens. Là, on voit des tuniques bleues qui sont complètement névrosées, on va dire déprimées, parce qu'ils sortent de la guerre civile, la guerre des sécessions. Hein. Et après, il y a eu les conquêtes des Grandes Plaines. Et là, évidemment, on a usé aussi de l'armée pour les massacrer, on va dire, des villages. Hein. Faut pas l'oublier non plus, ça. Et donc, j'ai appris plus tard, en plongeant un peu plus dans l'histoire de ces réserves indiennes, qu'en fait, Hostiles étaient appelés Hostiles tous les Indiens qui sont fuyés des réserves. On les campait dans les réserves, et dès qu'ils se barraient, comme Sitting Bull, hein, quand il s'est barré avec tout son peuple, il rameutait, on va dire, toutes les tribus Sioux ont été qualifiés d'Hostiles. On ne les appelait même plus les Indiens, on disait Hostiles. Mais voilà, pourquoi Timothée Chalamet? Mais pour la raison suivante. Donc du coup, le Christian Bale, lui, il est capitaine de cavalerie. Et sa mission dans le film, c'est en fait son colonel qui lui demande et qui l'oblige à ouvrir une cellule de prison pour aller chercher un chef qui en a fait baver à l'armée américaine parce qu'il atteint un cancer. Et pour faire un geste politique, le gouvernement américain a décidé de le faire escorter jusque dans ses terres natives, là où il est né, pour qu'il meure sur ses terres. Et en plus, tout ça, c'est accompagné par un journaliste. Donc, c'est suivi par la presse. Ou ça. Donc ce pauvre capitaine qui est joué par Christian Bale, lui, il a une pression monstrueuse. C'est-à-dire, non seulement il ne veut pas le faire. Deux, il manque de se suicider la veille de le faire. Et trois, il manque de le flinguer sur le chemin. Tu vois ? Et voilà pourquoi ce film est super intéressant. Et dans son escouade, évidemment, le colonel lui présente un petit peu sa petite escouade qui va l'accompagner. Donc il y a 5, 6, 7 soldats dedans. Et dedans, il y a Timothée Chalamet. Et Stevie, c'est la crevette, lui, au milieu de tous ces grands gaillards, tu vois, qui sont déjà habitués. Et pourquoi c'est une petite crevette? Alors, il s'appelle le soldat Philippe Desjardins. Donc en fait, tu vois, ils avaient besoin d'un Français pour faire le film. Ils ont choisi Timothée Chalamet. Ça m'a fait rire. Et ce qui m'a fait encore plus rire. Alors pourquoi ils choisissaient des Français? Parce que les Français immigraient aux États-Unis. Et si tu veux être incorporé, on va dire, dans le pays, hein, en tant que citoyen américain, il n'y a pas tant de solutions. Hein, si tu rentrais dans l'armée, c'était une des façons aussi de se faire naturaliser américain. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Timothée Chalamet, à la première, on va dire, rencontre avec des tribus indiennes qui étaient super hostiles, par contre, là, qui attaquent vraiment le convoi, il se fait flinguer, mais il fait même pas 30 secondes sous sa selle. Il se fait super désinguer. Il tombe au sol.
C'est très joli.
Bref, c'est le premier à t'enterrer. Voilà pourquoi j'ai adoré son rôle. Oui,
le rôle le plus court de la planète.
Hein. Je me suis pas après posé la question, mais Scott Cooper, pourquoi? Mais qu'as-tu contre les Français? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je veux dire, t'as une dent contre eux, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, il m'a fait beaucoup rire. Donc c'était en 2017. Je vous recommande de le voir, le film. C'est un grand film. Grand rôle pour Rosamund Pike. Westudy, tout ça, tous ceux qui jouent le rôle de l'Indien. Timothy, qui es-tu? D'où viens-tu? Né et élevé à Manhattan, Timothée Chalamet évolue dans le milieu artistique dès son plus jeune âge. D'ascendance américaine et russe par sa mère française et française par son père, pardon, il apparaît très tôt dans des publicités ainsi que sur la scène théâtrale new-yorkaise. C'est en 2008 qu'il fait ses premiers pas à l'écran, tout d'abord dans des courts-métrages horrifiques comme Sweet Tooth Clown, puis à la télévision dans les séries New York Police Judiciaire et Royal Pains. Mais c'est en 2012 qu'il se fait remarquer alors qu'il étudie à la LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts of New York. Il décroche le rôle de Finn Walden, le fils du vice-président, dans la deuxième saison de Homeland. Deux ans plus tard, c'est au cinéma qu'il fait ses armes, tout d'abord dans le film Coral Men, Women and Children de Jason Reitman, où il donne la réplique à son ami Ansel Elgort, qu'il a rencontré à la LaGuardia High School of Music and Art. La même année, il apparaît dans le premier blockbuster de sa jeune carrière, dont Christopher Nolan le choisit pour incarner le fils de Matthew McConaughey dans Interstellar. Suivent des productions indépendantes inédites en France comme One and Two, Miss Stevens, Hot Summer Nights, dont il tient le premier rôle. En 2018, son nom est sur toutes les lèvres grâce à ses trois films, dont deux nommés aux Oscars, qui lui permettent de s'illustrer dans les registres variés. Il incarne tout d'abord Kyle, un lycéen ténébreux qui fait tourner la tête de Lady Bird dans la première réalisation de Solo de Greta Gerwig, puis se glisse dans la peau d'un soldat dans le western crépusculaire Hostiles où il donne la réplique à Christian Bale, dont je vous ai parlé. Mais c'est surtout grâce à Call Me By Your Name qu'il explose aux yeux du grand public. Cette histoire d'amour homosexuel et charnel mise en scène par Luca Guadagnino lui offre l'occasion d'interpréter en italien, en anglais et en français. Un adolescent qui connaît ses premiers émois sexuels en même temps que sa première peine de cœur. Il décroche à 22 ans seulement sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur face à des pointures telles que Denzel Washington, Gary Oldman et Daniel Day-Lewis. Il enchaîne depuis les projets de la comédie romantique Un jour de pluie à New York du controversé Woody Allen au drame My Beautiful Boy où il est le fils toxicomane de Steve Carell en passant par la fresque historique Netflix Le Roi. Il retrouve en 2020 Greta Gerwig pour une nouvelle adaptation des 4 fils de Dr. March où il donne encore la réplique à Sayoriz, j'ai du mal à un mal fou à le prononcer, Ronan. En 2021, le jeune comédien est à l'affiche de deux films événements, The French Dispatch, film choral de Wes Anderson, et l'impressionnant casting dont Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson, Frances McDormand entre autres, et Dune adaptée du monument de la science-fiction de Frank Herbert. Pour la première fois de sa jeune carrière, Timothée Chalamet est à la tête d'affiche d'une grosse production dotée d'un budget de 165 millions de dollars. Et il succède à Kyle MacLachlan dans le rôle de Paul Atreides. Je ne sais pas comment le prononcer. Atreides. Plus de 35 ans après le film de David Lynch, que je vous recommande chaudement, entre parenthèses. L'acteur n'est pas prêt d'arrêter son ascension. On l'attend dans les prochains projets de Luca Guadagnino, dont la suite de Call Me By Your Name et le film d'horreur Bones and All, ainsi que dans Wonka, consacré aux origines du chocolatier Willy Wonka. Voilà un petit peu pour vous donner quelques explications sur sa vie et sur sa biographie.
Jeune acteur qui est de l'avenir,
oui, hein, plein d'ascension.
Absolument, ouais.
Oui.
Voilà, donc vous allez pouvoir le découvrir cette semaine sur les écrans de La Brèche et avec cette sélection que tu nous as présentée, effectivement, 6 rendez-vous, il y a du choix, comédie, rendez-vous, film d'animation, ouais, pour les plus
documentaire.
Jeunes, documentaire, ouais. Voilà, donc on a de quoi faire, hein, cette semaine en tout cas,
absolument,
à La Brèche. Et puis on l'attend aussi avec impatience, c'est dans quelques jours, le retour des Trois Mousquetaires, mon cher...
Absolument. Milady,
cher Pascal,
Milady,
voilà, ouais, on en reparlera la prochaine émission. En tout cas, il y a des choses qui arrivent aussi, donc n'hésitez
pas. Ça sera pour la prochaine fois.
Exactement, Pascal, je te laisse le mot de la fin comme d'habitude.
Eh bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé, surtout en ce moment, c'est moche tout ce qu'il y a. Et côté Radio Grand Air, eh bien, venez vous divertir au cinéma. Vraiment, on a plein de choses à vous montrer. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine cinématographique.
Merci Pascal.
Merci Christophe. À bientôt.